Bonsoir à toutes et à tous. Il est bien 22h01. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu. Les bandes continuent, c'est fini. Pour l'instant, c'est place au direct.
Ouais.
On se croirait sur une grande radio. Hein. C'est incroyable. Mais on est une grande radio, mais associative.
Oui.
Voilà. Alors, comme tous les dimanches de 22h23, c'est la causerie autour de la table et à la technique. Clara, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Fab.
Salut. Ben bonsoir moi.
Et bonsoir moi. Voilà.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir. Alors, comme d'hab, pardon.
Comment ça se fait qu'on a eu que la moitié du générique?
Je crois que quelqu'un s'est endormi à la technique.
Ah bon?
Elle a oublié d'appuyer sur le bouton. Pardon. Alors, ce soir, comme d'habitude, pour nous contacter, avant qu'on attaque les sujets, tout ça, un peu comme à notre habitude, eh ben, on va vous rappeler le mail, c'est
lacauseriecanu@gmail.com.
Voilà. Peut-être tu peux le répéter calmement.
lacauseriecanu@gmail.com. Tout attaché, sans point, sans tiret, sans rien.
C'est superbe. Et ensuite, on a aussi un blog où vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions d'avant.
Ouais. Voilà. Et alors le blog, il se trouve soit dans le blog des émissions de Radio Canu, vous avez sur le site radiocanu.org les blogs des émissions, ou alors à l'adresse directement blogs, donc blog au pluriel, .radiocanu.org// La causerie, tout attaché. Voilà.
Voilà. Pardon. Et on fait des bisous aux causeuses et causeurs qui ne sont pas là.
Bah ouais.
Voilà.
Qui reviendront un jour.
Bah oui.
Bah oui.
Ou pas. On ne sait pas.
Voilà, c'est la vie.
Mystère. Il s'est posé, hein, t'as vu comment on pose, on pose une ambiance.
Le teaser de ouf.
Ouais, je sais. Alors, bah Fab, c'est toi qui vas commencer. Tu voulais nous parler d'un petit truc dont on entend un peu parler.
Ouais, bah, régulièrement, je reviens sur le sujet du réchauffement climatique. Je me suis dit, bah, il fait un peu chaud en ce moment, et puis voilà. Non, c'est surtout qu'en fait, en ce mois d'août 2016, nous entrons dans le 15e mois le plus chaud de ces 100 dernières années. Alors, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'en fait, c'est le 15e mois le plus chaud sur la planète en moyenne de suite. Et en fait, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est-à-dire que
c'est pas un
mois par-ci par-là, c'est que là on a une série de mois, donc 15 en l'occurrence, qui se suivent, et les spécialistes pensaient que le mois d'août que le mois de juillet serait un peu plus froid et donc casserait cette espèce de courbe, mais en fait pas du tout. En moyenne sur Terre, il fait de plus en plus chaud et de façon mesurable. C'est un peu ça qui était assez étonnant pour les spécialistes, c'est que non seulement il fait plus chaud, mais en plus on en arrive à le mesurer et pas de l'ordre du demi-degré. Vous voyez, il fait vraiment plus chaud. Donc en fait, les spécialistes du GIEC et d'autres se sont remis autour d'une table et de calculateurs et de calculatrices. Et on refait leurs calculs parce que forcément ce qui se produit là n'était pas prévu vraiment dans tous les schémas qui étaient à la fameuse COP 21, sauf dans le schéma le pire, pour être très clair. C'est-à-dire que il y avait un schéma où les gens disaient ça peut se produire comme ça, mais c'est le pire du pire. Et en fait, on est très proche du scénario du pire du pire.
C'est un peu notre réalité maintenant.
C'est un peu devenu notre réalité. D'accord. Donc en fait, ils ont refait leurs calculs. Donc au rythme où on va. En 2100, il fera au minimum 4,7 degrés de plus sur la planète. Voilà. En moyenne, ça veut pas dire qu'il fera 4,7 degrés de plus chez vous, c'est l'externel truc, c'est la moyenne. Ça veut dire que, par exemple, pour donner un exemple très concret, des températures très élevées vont se trouver dans les déserts, et dans les zones tempérées, on va avoir moins s'élever la température que dans les déserts. Mais en moyenne, ça va faire plus 4 degrés. Donc ça, ils estiment que ça va autour de 4,7 degrés. Alors le problème, c'est que la viabilité était entre 1,5 et 2 degrés. Donc c'est à peu près deux fois plus, et en plus 4,7 c'est la moyenne basse, donc c'est-à-dire c'est pas vraiment optimiste. Mmh. C'est plutôt la moyenne de dire on devrait au moins arriver à ça. Donc les scientifiques, plusieurs autour d'une pétition qui est en train de se mettre en place, sont en train de dire qu'en fait on n'est plus dans l'ordre du il faut ralentir le réchauffement climatique ou il faut l'empêcher, parce que ça en fait ils disent c'est de l'ordre du slogan, parce qu'en fait aujourd'hui on a passé une barre qui prouve qu'on ne l'arrêtera pas en fait, et qu'il y aura un réchauffement climatique, qu'il est beaucoup plus rapide que prévu. L'atmosphère se réchauffe plus rapidement que ces 800 000 dernières années. Voilà, donc c'est-à-dire que ça ne s'est jamais réchauffé aussi vite qu'aujourd'hui. Il n'y a aucun événement stellaire qui expliquerait ça, c'est ce que Georges nous expliquait dans les émissions. Les gens qui disent c'est parce que le soleil il serait un peu plus couché à gauche qu'à droite et que du coup ça c'est de la connerie, en fait il n'y a rien qui influence de ce côté-là. Ou alors vraiment à la marge, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'au pire c'est de l'ordre de même pas 0,5%, donc ça n'explique pas ça. Non, la seule chose qui influence, c'est les gaz à effet de serre. Alors je vais rappeler que les gaz à effet de serre, c'est le CO2, c'est aussi le méthane, et ça va avoir son importance, ce que je vais vous dire après, et c'est tous les gaz qui sont rejetés par la fonte de lieux qui n'auraient pas dû fondre, voilà, et aussi par la décomposition trop rapide des forêts tropicales. Bah oui, parce que le réchauffement climatique a une sorte de double effet. Le premier, c'est que il va faire fondre des parties qui ne fondaient pas jusqu'à maintenant. Par exemple, savez-vous qu'en Sibérie, il y a 3 jours, il faisait 35 degrés.
C'est un peu chaud.
C'est un peu chaud. D'habitude, il fait 17 à cette période. Donc, c'est un petit peu élevé. Et en fait, voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des poches de chaleur qui se créent à des endroits où normalement il n'y avait pas ces poches de chaleur-là. Et qui sont auto-alimentées, qui s'alimentent très vite par le fait que, comme il fait très chaud en Sibérie, le permafrost, c'est-à-dire le sol gelé, se met à fondre et libère des tonnes de méthane qui est 10 fois plus rétenteur de chaleur que le CO2 dans l'atmosphère. Donc ça s'auto-alimente et du coup il y a ces espèces de poches de chaleur qui vont se créer petit à petit, puis le méthane va aller se balader sur toute la planète parce que à part dans la tête de quelques fous, les frontières n'arrêtent rien, hein. C'est-à-dire que l'atmosphère, elle s'en fout de la frontière, hein. Elle n'existe pas, quoi. Non, du tout, ça n'existe pas. C'est juste des traits sur des cartes tracés par des gens qui avaient envie de dire qu'on habitait dans des pays. Mais ça n'a pas de réalité, hein. Donc voilà. Et donc, du coup, il y a ce premier phénomène qui se produit. Puis le deuxième, c'est qu'en fait, dans le permafrost, il y a un paquet de saloperies qui étaient enfermées dans le froid. Et c'est le cas notamment de l'anthrax. Oui, l'anthrax, cette petite maladie bactérienne dont on vous a beaucoup parlé autour du 11 septembre. Vous vous souvenez, il y avait des enveloppes, on avait peur qu'on ait mis de l'anthrax dedans. Alors en fait, l'anthrax, c'est ce qu'on appelait la maladie du charbon à une époque, parce que c'est une bactérie qui se trouve généralement dans les sous-sols et qu'on trouve quand on gratouille un petit peu là où il faut pas. Sauf que là, en fait, il y a entre 1500 et 2500 rennes qui sont morts d'un seul coup d'anthrax en Sibérie. Et donc les autorités russes, elles n'ont pas fait les choses à moitié. C'est carrément la sécurité intérieure qui s'est occupée du problème, hein. Donc on voit bien que ça les a pas fait rire. Et puis surtout qu'ils n'ont pas envie trop que ça sorte tout trop vite, hein. Voilà, hein. Donc ils ont dit oui, sécurité intérieure, secret défense, tout ça, tout ça. Donc de ce qu'on a su, c'est qu'il y avait 80 personnes qui ont été mises en quarantaine, dont une trentaine à une quarantaine d'enfants. On ne sait pas s'ils sont atteints ou pas d'anthrax, ou si c'était juste des mesures par sécurité.
Préventive,
voilà. Mais en tout cas, on sait qu'il y a au moins 1500 rennes qui sont morts d'anthrax. Alors, il y a des scientifiques qui ont commencé à se demander, mais d'où il sort, cet anthrax? Parce que normalement, ça apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Ils se sont rappelés que dans les années 30-40, il y avait déjà eu une grosse épidémie d'anthrax en Sibérie. Et en fait, ils ont retrouvé la cause une, comme on dit, la cause première. C'est qu'en fait, il y a une vieille carcasse qui était prise dans les glaces jusqu'à maintenant d'un renne mort dans les années 30 ou 40, hein, ils savent pas exactement, qui est remontée à la surface parce que ça s'est dégelé. Et l'anthrax a la petite particularité, comme beaucoup de bactéries, de se foutre en sommeil et de ressortir quand elle peut. Donc elle s'est restée tranquille en sommeil parce qu'il faisait un peu froid. Elle a dit, il fait froid, je sors plus. Et quand il s'est permis à faire chaud, elle a dit, là il fait chaud, je sors. Voilà, et elle a tué plein de gens. C'est cool. Alors les scientifiques disent que c'est aussi un peu embêtant parce que la Sibérie était aussi une zone où la variole était présente. C'est cette maladie qu'on a éradiquée par la vaccination. Sauf qu'on ne vaccine plus contre la variole, parce qu'on estime qu'elle est éradiquée. Sauf que si elle venait à ressortir, y a tout un tas de la population qui n'est pas vaccinée. Et qui donc, potentiellement, risquerait d'attraper la variole. Donc les scientifiques commencent à dire, oula, attention, ça n'est pas juste l'anthrax et des trucs comme ça, ça risque d'être plus embêtant et d'autres choses qui risquent de remonter.
Il n'y aurait pas que l'anthrax, ouais.
Non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'enterrait pas les gens en Sibérie, parce que les sols étaient gelés. Donc en fait, on mettait des cailloux dessus, c'était un peu une tradition. On mettait les cailloux, vous savez, on voit ça des fois dans les films, on met des cailloux, on met une croix ou n'importe quoi d'autre, et on dit, il est là. Sauf que le problème, ça, quand il fait froid, ça va. Et quand il fait chaud, ça va moins bien, parce que du coup, tout se barre et puis tous les trucs ressortent. Les virus, les bactéries, voilà. C'était donc le moment très joyeux de ma chronique, que vous l'aurez compris. La deuxième chose, c'est la répartition des eaux qui commence à changer. Alors pour des raisons simples, c'est que la pluie ne tombe plus au même endroit. Voilà, c'est tout simplement ça. En fait, on sait que l'eau sur la planète, elle se balade, c'est comme ça. En fait, contrairement à ce qu'on croit, l'eau est une ressource renouvelable, dans le sens où ben, quand ça s'évapore, ça finit toujours par retomber, hein, sous forme de pluie, sauf que ça ne retombe pas forcément à l'endroit d'où ça s'est évaporé. Vous voyez, c'est un petit peu le truc qui fait que c'est pas très pratique. Et le réchauffement climatique fait qu'on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle une calotte qui est en train de se créer au nord et au sud du globe. Alors, vous voyez le globe, c'est la sphère. Et en fait, ben, vous faites une ligne à peu près au 45e méridien. Et en fait, au-dessus, il pleut plus qu'avant. Et en dessous, il pleut un peu moins. Et vous refaites la même chose au sud, en fait. Et là, les gens vont dire, bah ouais, mais c'est pas logique parce que les glaces, elles fondent. Bah oui, parce que quand il pleut, souvent, les glaces fondent, en fait. Hein. Vous voyez, c'est le problème du truc, c'est qu'il neige pas. Il pleut. Donc, il se met à faire plus chaud. Parce qu'en fait, quand vous êtes sous les nuages, il fait plus chaud. C'est parce que l'eau a aussi un effet de serre. Donc, en fait, bah, on est en train de se rendre compte, enfin, les scientifiques, hein, parce que moi, personnellement, j'ai fait que lire ce qu'ils avaient dit.
Okay. Ah, t'étais pas...
Non, j'étais pas autour de la table. Okay. Puis alors, très honnêtement, j'ai lu un truc où les chiffres, j'ai pas tout compris. Ben, je vous le dis franchement. Hein. Mais par contre, la conclusion, je l'ai comprise, c'est que dans les 30 prochaines années, ce qu'on appelle les zones d'eau utilisables, c'est-à-dire où il y a de l'eau potable, voilà, vont se déplacer. Et elles vont se déplacer sur les pays plutôt qui sont déjà favorisés. C'est pas de bol pour les autres, mais c'est surtout, c'est-à-dire que par exemple, ça va être les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tout ça, vont être des pays qui vont être plus arrosés qu'avant. Et bah oui, mais sauf qu'en fait, les gens ont l'impression que c'est pas bien, machin, tourisme et tout, parce que là, en ce moment, ils pensent plus à se faire bronzer sur les plages. Sauf qu'en fait, bah, ça veut surtout dire que dans d'autres pays, il y aura moins d'eau à boire et pour irriguer. Donc, c'est ça le problème. Donc, ça va créer, d'après une étude récente de chercheurs américains, japonais et vénézuéliens, c'est donc une équipe pluridisciplinaire. C'est important quand je dis ça parce que c'est souvent ces équipes-là sont peu politisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un truc qu'on leur commande. C'est plutôt quelque chose qu'ils font parce que voilà, parce que leurs pays sont touchés et puis qu'ils se réunissent entre scientifiques.
Ils partagent en fait leurs connaissances. Voilà. Oui, ils les partagent, quoi. Ils les travaillent ensemble. Quoi.
C'est ça. Et eux, ils arrivent qu'à la conclusion que ce que disait l'ONU, c'est-à-dire qu'il y aurait des réfugiés climatiques à partir de 2100, est faux. Et pour eux, les premiers réfugiés climatiques vont être présents à partir de 2030. Nous sommes en 2016, donc dans 14 ans exactement. Et que donc, il est temps de commencer à préparer des déplacements massifs de population. Eux, ils estiment que c'est entre 1,5 et 2 milliards d'êtres humains qui vont devoir bouger du lieu où ils se trouvent actuellement pour pouvoir survivre. Voilà, c'est la conclusion. Ouais. En fait, ils arrivent à cette conclusion assez facilement. Hein. Ils prennent la courbe démographique. Donc, l'Afrique va atteindre le milliard d'habitants assez rapidement. Or, c'est une des régions qui va être le plus touchée par les différents déserts qui sont déjà présents et qui commencent à s'étendre, malheureusement. Et ils ont pris, en fait, les zones désertiques autres, comme la Mongolie, comme le désert de Gobi, mais comme aussi, en fait, les déserts qu'on trouve aux États-Unis et au Mexique. Parce qu'on les oublie ceux-là, mais ils existent, hein, la vallée de la mort, hein, c'est voilà. Et par exemple, ils donnaient un exemple, ils disent à l'heure actuelle, dans la vallée de la mort, on arrive à monter jusqu'à 60 degrés en pleine journée, et ils estiment que dans très peu de temps, on montera à 65 voire 70 degrés. Or, à cette température-là, aucun être humain n'est capable de survivre correctement. C'est-à-dire qu'on survit, mais il faut avoir des litres et des litres de flotte sur soi pour boire en permanence, parce qu'on se déshydrate à vitesse grand V. Donc, ils expliquent que bah même là, même aux États-Unis, il va y avoir des lieux et des endroits où il va falloir déplacer les gens. Quoi. Il parle aussi notamment de la zone saharienne et subsaharienne africaine, où ils expliquent que là, il y a déjà beaucoup d'habitants qu'il va falloir déplacer. Non pas parce qu'il y aura du désert ou autre, mais parce qu'ils vont manquer d'eau, ce qui est déjà le cas dans beaucoup de pays, mais ça va s'aggraver. Et surtout, parce qu'en fait, les températures vont avoir des deltas tellement élevés entre la nuit et le jour, que ça en devient insupportable pour un être humain, quoi, pour un mammifère. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est des zones où on va trouver de plus en plus de moustiques, d'animaux à sang froid, de choses comme ça, ce qui est logique, ou d'insectes. Mais que le mammifère, lui, il n'est pas prévu pour faire des écarts de température de moins 40 à plus 50. Vous voyez, c'est ce qui peut se produire dans certains déserts. Donc voilà, donc ils expliquent que ça va être... Et ils essayent d'alerter en disant que bah, il est temps de prendre ça en compte. Et surtout, ils disent, si on applique la même politique migratoire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avec ce qu'on voit, voilà, on n'est pas prêt de les sauver. Hein, donc en fait, il va falloir un petit peu réfléchir autrement que ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est là qu'ils deviennent politiques, parce qu'en fait ils expliquent que la survie d'une partie de l'humanité va dépendre de l'intelligence de l'autre partie, c'est-à-dire la capacité d'accueil de l'autre partie, et ils le disent comme ça en fait, donc voilà. Et le dernier point, c'est que d'après eux, il va y avoir 35 îles à évacuer dans les 25 ans qui viennent. Donc, des gens à reloger. Parce que vous évacuez une île, ils vont pas aller sur l'île d'à côté, il y en a pas. Et parce qu'en fait, le niveau des mers monte un peu plus vite que prévu. C'est lié, en fait, simplement au réchauffement qui est plus rapide. Donc, à la fonte de la calotte glaciaire qui est plus rapide, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et d'ailleurs, la fonte de la calotte glaciaire, j'en finis là-dessus, ça fait des surprises. Il y a quelques jours, une base secrète américaine qui date de la guerre froide, bah, elle est réapparue, dites donc. Elle était censée être sous la glace, mais comme il n'y a plus de glace, bah, elle est là. Voilà. Et donc, on découvre qu'il y avait une base de lancement de missiles atomiques au Groenland, qui était là, bah, pour parer à toute éventualité d'une attaque de l'URSS à l'époque, hein, voilà, la fameuse guerre froide. Et en fait, le problème, c'est qu'on a découvert que la base était là, mais surtout qu'ils sont partis en laissant tout sur place, donc c'est-à-dire de l'eau radioactive, des produits toxiques, des litres et des litres de fuel qui, s'ils venaient à se déverser dans une zone comme le Groenland, bah, serait une catastrophe écologique énorme. Donc, les gens disent, non seulement donc les gens du Groenland, parce qu'il y a des habitants, je vous le rappelle, disent, alors non seulement nous, on a déjà le réchauffement climatique sur la gueule, et ça nous fait pas vraiment rire, parce qu'en ce moment, il y a les sols se mettent à bouger, des maisons sont détruites, mais en plus, on va peut-être pas nettoyer pour les Américains. Donc, ils ont demandé à ce que les Américains viennent nettoyer leur merde, hein. C'était les propos de la maire de je ne sais plus quelle ville du Groenland qui a dit ça comme ça. Voilà. Okay. Voilà, les réchauffements climatiques où on en est en ce moment. C'est pas joyeux, c'est pas amusant, mais comme Didier Super, il faut mieux en rire que s'en foutre. Je voulais dire que ce qui est important surtout, c'est de voir que le réchauffement climatique inclut, comme pour les guerres, comme pour tout le reste, qu'on revoit notre vision de la migration, comme on dit, mais en fait, simplement du droit des gens à s'installer là où ils peuvent, et surtout là où ils peuvent vivre, hein. C'est surtout ça qui est important. Et qu'il faut arrêter avec, c'est ce qu'ils disaient certains scientifiques africains. Ils demandent en fait aux Occidentaux d'arrêter avec le folklore, hein, parce que les gens croient en Occident que tout le monde vit sur des dromadaires et traverse le désert avec Non, il y a des gens qui vivent de façon sédentaire et qui eux ne savent pas du tout survivre dans le désert. Et quand dans votre ville l'eau vient disparaître et qui se met à faire de plus en plus chaud, vous pouvez pas rester quoi. Il faut arrêter de croire qu'ils vont s'adapter, comme ils disaient. Voilà, c'était un petit peu leur coup de gueule en disant arrêtez avec l'exotisme, comme ils disaient. Voilà.
C'est tendance, l'exotisme. Non, et moi, juste avant qu'on passe peut-être à la musique, ça laisse le temps à la personne, à la technique de se réveiller.
Vous êtes
prête. Dans les starting blocks. Non, une petite pensée pour Laurent Cabrol. Comment il s'appelle l'autre aussi?
De France 2, j'ai perdu le nom. Là.
Non, c'était lui. L'ancien ministre.
Celui qui est peut-être mort, là, Allègre.
C'est ça, Claude Allègre et tous ces climato-sceptiques.
Ouais, mais ça va plus loin parce qu'aujourd'hui, on a un candidat. Candidat à la présidentielle américaine qui ouvertement dit que ça n'existe pas, c'est Donald Trump.
Oui, mais il dit aussi qu'il y a des races qui existent.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est important de souligner que aujourd'hui, il faut que dans la tête des gens, on se dise ça existe, c'est là, et c'est pas dans 100 ans, c'est maintenant en fait. Oui. Voilà.
Et que c'est une position politique.
C'est ça, et que donc c'est politique.
Ouais. C'est ça.
Ouais, mais effectivement, on peut les saluer tous ces couillons.
Oui, c'est ça. Et allez, un peu de.
And actually, there's no people there. The whole system can run itself. We'll be right back.
d'amis. Ça, c'est variable dans le temps.
Publicly we were told terrorists, enemies, communists. In practice it wasn't.
Et c'était Moody Escape avec le titre Big Brother. Vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu.
Ah, c'était bien dit.
Ouais.
Et on peut remercier Guillaume de Musique etc. qui nous a fait découvrir ce groupe. Et il y a une émission avec eux. Vous pouvez le retrouver sur les blogs de Radio Canu à l'émission Musique etc. Voilà, avec un K à musique.
Mmh. Voilà.
Jean-Yves.
Oui, bonsoir.
Tu veux nous parler d'un essai? C'est à cause des JO? Ouais, le rugby à 7, tout ça.
Oh là là. Ah bah si tu m'emmènes sur le terrain du sport, c'est foutu. Hein. Enfin bon, non,
désolé.
En tout cas, c'est pas ça.
J'aurais essayé.
Oui, tu auras. oui, je vais vous parler de l'essai. C'est une bande dessinée de Nicolas Debon. C'est aux éditions d'Argo dans la collection Long Courrier. Alors comme d'hab, j'aime bien un peu resituer la personne qui a réalisé l'ouvrage. Donc Nicolas Lebon, il est né en Lorraine. Il a 48 piges. Il a fait l'école des Beaux-Arts. Il a fait des petits boulots dans l'administration culturelle avant de partir en 93 au Canada pour une dizaine d'années, en fait, où il a été dessinateur de vitraux. Il a pris des cours du soir aussi dans lesquels il a découvert l'univers en fait de l'illustration jeunesse, parce que oui, l'illustration jeunesse, c'est un univers, enfin c'est encore une fois un monde, hein, c'est pas plus petit ou plus merde que le reste, hein.
Non, c'est différent.
Oui, c'est ça. Mais en France, je crois qu'on l'oublie un petit peu des fois, ça.
En France, on est un peu élitiste à la con.
Ah ouais, c'est ça. il a aussi, il a été finaliste dans des prix littéraires au Canada, aux États-Unis. Et depuis, il est rentré en France. Enfin, il est rentré. Depuis, il vit en France, en tout cas, il est rentré, il fait ce qu'il veut.
Oui, c'est vrai, quoi.
Bah oui. Et donc, à son actif, il a trois ouvrages, ces trois bandes dessinées, qui ont, je crois, quand même un petit peu à chaque fois cette spécificité d'être entre la création de par le fait, bah effectivement il dessine etc. tout ça, mais il y a toujours une empreinte de réalité historique dans tout ce qu'il fait.
Ouais, donc, une sorte de docu-fiction.
Ouais, il y a de ça, ouais. Et alors, je peux vous les citer quand même parce que c'est toujours intéressant. Donc 2009, c'est le Tour des Géants. Alors je me suis quand même renseigné un petit peu. C'est une BD sur, je crois que c'est le premier Tour de France, un truc comme ça.
À 1910,
un truc comme ça. Comme ça, ouais. Où les gars, en fait, ils étaient tout seuls. Enfin bref, ouais. Ils en chiaient. Enfin, parce qu'ils n'avaient pas tout forcément le PO qu'ils ont aujourd'hui.
Ouais.
Les labos pharmaceutiques étaient.
Mais ils avaient le gros rouge qui tâche à l'époque.
Ouais.
Et la cocaïne.
Et la coque.
Ouais,
bah ouais.
Tournait bien.
Et ensuite, en 2012, c'est l'invention du vide. Alors là, je crois que c'est sur des alpinistes, si je me souviens bien. Et donc, en 2015, le livre dont je vais vous parler ce soir, c'est donc l'essai. Alors, l'essai, ça nous cause en fait d'une colonie communiste qui était à Aiglemont, qui a réellement existé. Hein. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux juste vous lire les trois premières pages. C'est très court, hein. Vous croyez pas qu'on en est pour 3 heures. Et ensuite, je vous détaillerai un peu plus ce qu'on trouve dans le livre, etc. Mais je trouve que cette première introduction est vraiment intéressante. Tout ce que nous avons fait ici l'a été sans qu'un ordre soit donné. Nous vivons sans Dieu, sans maître, sans patrie, sans maître, libres avec la sensation de vivre ce que nous souhaiterions avoir vécu. Cette vie nous a donné des jouissances incomparables, des satisfactions journalières inconnues au sein de la société. On ne travaille pas par force, mais par raison. Pas pour soi, mais pour tous, pour les camarades qui nous entourent et, sur un plan général, pour l'humanité. Montrer combien l'autorité est irrationnelle et immorale, la combattre sous toutes ses formes, permettre aux hommes de s'affranchir d'eux-mêmes, d'abord, des autres, ensuite, préparer une société harmonieuse d'hommes conscients, prélude d'un monde de liberté et d'amour. Voilà notre œuvre, marcher à la conquête d'un meilleur devenir.
C'est une communauté anarchiste, donc.
Ouais, ils disent coco, mais...
Mais communiste libertaire.
Communiste libertaire, voilà. Ouais, mais justement, le communiste seul me convenait pas. Voilà. Et donc, après ça, on découvre, on suit, en fait, la vie de Jean-Charles, qui est plutôt appelé Fortuné Henri, mais c'est son vrai prénom, c'est Jean-Charles Fortuné Henri. Ok. Donc Fortuné, on le suit à la descente du train. Il arrive à la gare d'Aiglemont, donc en juin 1903. Alors, pour situer un petit peu, c'est dans les Ardennes. C'est à la limite, enfin au début de la forêt des Ardennes. Voilà. Et il y rejoint. Enfin, on le voit. Il arrive sur un champ en fait, et il construit une première cabane. Et c'est hyper, enfin c'est rustique, hein, enfin il y a trois poutres, deux planches et puis voilà c'est tout, un petit peu enfoncé dans le sol. Et donc là, de là aussi, il y a des gens du village qui le voient évidemment, qui se posent beaucoup de questions sur ce bizarroïde là qui est pas de chez nous et qui vient s'installer dans ce camp, enfin dans ce champ, faut être complètement fou. Donc voilà et donc c'est parti, cette aventure et on suit cette colonie. Alors il l'appelle la colonie hein, mais on peut aussi l'appeler la communauté et on la suit de saison en saison, des premières arrivées de compagnons, c'est en novembre 1903, à d'autres arrivées de compagnons, il y a des familles qui arrivent, il y a des gens qui sont de passage et il y a les débuts aussi des travaux de la terre parce que l'idée c'est quand même d'arriver à une autosuffisance au moins. Et au-delà, c'est pouvoir justement faire suffisamment pour pouvoir les revendre sur les marchés. Et donc voilà, il y a aussi des animaux, il y a des poussins qui arrivent. Donc on a, je sais pas si je vous l'ai dit, si les premières récoltes, je sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas elles y sont. Il y a aussi les cadeaux de soutien qu'ils reçoivent. Ils reçoivent une vache, en fait, offerte par des syndicalistes. Ils viennent et leur donnent une vache en disant ça c'est de la part des syndicalistes de la métallurgie, etc.
Ouais, parce que c'est ce qu'on oublie un peu dans l'histoire, c'était l'entraide ouvrière et syndicale qui était très très forte à l'époque et qui malheureusement s'est perdue aujourd'hui, mais où elle peut exister mais dans des moindres mesures, et où quand des gens montaient des trucs d'autres disaient écoute, je peux pas participer mais je peux déjà te filer ça parce que ça ira mieux après, quoi.
Oui, c'est ça. On a la visite des villageois et c'est génial parce que des villageois, de journalistes, d'écrivains, d'universitaires, d'artistes, d'écrivains, enfin c'est vraiment c'est hyper riche.
Et il y a pas des gens qui viennent juste comme ça ?
Si, aussi, évidemment, il y a des gens qui viennent, qui sont de passage, il y en a qui viennent un peu s'installer aussi. Et c'est hyper intéressant parce c'est pas tout détaillé mais on les voit que c'est il y a une émulsion, quoi. L'idée, c'est vraiment que ensemble, on arrive à s'interroger, à réfléchir, à construire, quoi, en fait. Donc, c'est hyper hyper intéressant. On a aussi les coups de main, justement. Enfin, des gens qui viennent juste pour aider, des gens qui viennent déplacer des choses, qui ramènent des choses. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc voilà, on découvre aussi la dureté du climat, hein, parce que quand même, on est
les Ardennes. Hein.
Quand même. C'est pas que c'est invivable, hein, mais le climat est un petit peu âpre des fois. Et donc ça a aussi des conséquences sur les bâtiments. Enfin, donc ça remet aussi en question de comment on fait pour continuer à vivre ici, etc. Ça a forcément des conséquences aussi sur les récoltes, déjà qui vivent quand même assez chichement, hein, ils n'ont pas des grosses plâtrées tous les jours. On suit les décisions de construire de nouveaux bâtiments. Donc on est parti d'une personne, de ce Fortuné Henri qui est arrivé, et ils sont montés jusqu'à 20 personnes qui vivaient constamment sur place, quoi. Plus on y ajoute les gens de passage, etc., etc. Donc il fallait forcément de plus grandes maisons. Il y avait des enfants, donc ils ont reconstruit une grande maison avec une grande pièce centrale qui était pour les enfants. Donc là aussi, hein, c'est beaucoup de réflexion, je pense. Enfin, je trouve sur l'organisation, qui fait quoi. Je vais un peu vite. Qui fait quoi, qui retourne la terre, qui plante, enfin qui emmène les animaux qu'on revend sur les marchés. Voilà, c'est une vie de communauté, quoi, plusieurs humains que. Hein. Donc voilà, c'est aussi l'échange de savoir, ça c'est hyper intéressant parce que justement quand ils reconstruisent leur nouvelle maison, on comprend que quelqu'un a filé un conseil pour construire avec d'autres matériaux. Il y a aussi un autre exemple, c'est sur un champ, sur la culture, où il y a un ami. chimiste qui donne un conseil en fait, ben pour essayer d'avoir un petit peu plus en fait de la terre. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire du partage de savoir. On n'est pas là, c'est pas quelqu'un qui vient donner son, enfin qui vient donner des ordres avec son savoir.
Non, c'est
on
partage,
donne son savoir,
une entraide.
Vraiment. C'est ça, et c'est très rare. Donc c'est très agréable à lire. Il y a aussi la création de cartes postales parce que ben il faut vivre. Hein. Donc on essaie de diversifier, je pense, les ressources financières. Il y a aussi
Si je peux me permettre, ça veut dire que s'ils font des cartes postales, ils ont de quoi prendre des photos.
Oui.
Donc il y a quelqu'un qui est venu avec un appareil à plaque de l'époque.
Ouais.
C'est chouette quoi.
Et d'ailleurs, je peux le dire maintenant, mais et d'ailleurs dans la BD, vers la fin, c'est à la fin, il y a deux trois pages qui sont consacrées vraiment à l'histoire, vraiment la réalité, et on y retrouve des photos de cette communauté quoi. Donc c'est vraiment super bien. Donc voilà, ils éditent forcément des anards qui ont une imprimerie, bah forcément ils font un journal quoi.
Bah ouais.
Bah oui, quand même, parce que l'idée c'est pas de rester tout seul.
Donc ils font des radios quand ils ont les radios.
C'est vrai. Donc voilà, et on y croise des noms de journaux. Enfin quand il arrive, on voit qu'il y a un journal dans sa valise qui s'appelle Le Libertaire. Alors peut-être pour celles et ceux qui sont pas forcément proches du milieu anarchiste, ça vous parle pas forcément, mais c'était un journal
très lu.
C'est ça,
très diffusé.
Oui.
Et puis bah qui était un peu avec l'aide d'un gars qui s'appelait Sébastien Faure et d'une nana Louise Michel, je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose.
Voilà, hein. Et c'est un petit peu voilà le libertaire.
C'est ça. Mmh. Et j'ai oublié de citer quand même le nom du journal qu'ils imprimaient sur place parce que vous pouvez en retrouver des traces, ça s'appelle le Cubilo.
Alors on les retrouve où les traces?
Eh ben si vous promenez sur internet, vous pouvez le lire. Enfin moi j'en ai lu.
C'est la bibliothèque de France.
Ouais, c'est la BNF. La bibliothèque nationale de France.
Ça a été scanné en fait.
Ouais, ça a été scanné. Ouais, donc vous pouvez retrouver des. Enfin, je trouve que c'est juste génial en fait. Donc voilà, donc on y retrouve aussi ben justement des gens qui ont créé ben justement le journal par exemple Libertaire ou qui ont participé à sa mise en œuvre, qui ont aussi participé à la mise en œuvre d'un autre média. Ça s'appelle L'En Dehors. C'était Matcha donc qui s'appelait. On y parle de Rimbaud. On y évoque. Parce que Rimbaud était du coin.
Ouais.
Il est né dans le coin.
Oui, tout à fait.
C'est ça.
D'où le dormeur Duval qui est dans le coin.
Et il parle aussi d'un personnage dont je vous ai déjà parlé aussi. Il parle d'un curé de campagne, Jean Mélier, qui appelait au peuple à se relever et à tuer les religions, quoi.
Et qui était du coin aussi.
Et qui était du coin. Mais oui, mais oui. C'est riche, en fait. Tout se passait pas à Paris, en fait. Ah ouais.
C'est fou.
Déjà là. et donc voilà. Enfin, c'est. C'est vraiment génial. Enfin, moi, je trouve que c'est excellent cette BD. Et on y voit aussi, alors, au-delà justement de cette entraide, etc., on y voit aussi les individus. Alors là, c'est évidemment plus axé sur Fortuné, parce que c'est aussi un peu le personnage charismatique de cette communauté, quand même.
C'est un peu celui qui l'a monté.
C'est ça.
Et est-ce qu'il est arrivé justement à en faire une vraie communauté égalitaire, c'est-à-dire où il ne reste pas le chef, hein.
Je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. Mais après, lui, il s'en défendait, il essayait
oui.
de.
Mais c'est compliqué.
Mais c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est justement une des lacunes, je pense, qu'on peut retirer de cette
expérience.
C'est effectivement, et je pense qu'on peut le retrouver dans plusieurs trucs, hein, c'est toujours cette crainte ou cette possibilité d'avoir des gens plus emblématiques qui vont ressortir et qui vont un peu passer pour les porte-parole d'eux. Après, c'est peut-être aussi une volonté des autres d'être un peu en dehors de tout ça, mais.
Et aussi la volonté de certains de devenir ces porte-parole.
Et oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Après, lui, je ne pense pas qu'il en ait.
Non, mais je dis, dans les écueils, ça fait partie.
Ah oui, briller en société, même chez les rebelles. Et donc voilà, donc on suit ces individus et justement, on voit Fortuné dans ses fragilités, dans ses peurs, dans la jalousie. Et ça, c'est pareil, j'ai envie de vous lire le passage.
Vas-y.
Dans la jalousie, une saleté qui nous reste encore, ça. Et donc, en fait, il voit sa compagne, son amoureuse, dirons-nous, qui s'appelle Adrienne. Comment dire, un peu flirter, mais enfin, c'est vraiment joué, quoi. C'est un petit peu un petit jeu de séduction, quoi. Avec une personne qui est sur la communauté. Et donc, il et elle chantent un truc autour de l'anarchie, etc. Que ça viendra, ça arrivera. Et lui, il s'énerve un peu. Il dit, c'est bon, assez, quoi, assez. Et il dit, j'en ai assez de votre comédie à tous les deux. Donc, en parlant à Adrienne et à ce gars-là. Adrienne, je ne supporte plus tes œillades à ce saltimbanque. Et toi, camarade, surveille ton attitude si tu ne veux pas être exclu de cette communauté.
Il retrouve son rôle de chef.
Alors, il dit « La démonstration que nous avons effectuée est trop importante pour tolérer les égarements. » Et là, le gars, il le regarde, il dit « T'es qui, toi, premier colon, pour prétendre dicter la loi, en fait ? Nul ne peut considérer une femme, fût-elle sa compagne, comme un bien lui appartenant. » Et là, il répond « Je t'interdis, idée singulier communisme. Tu as fait de cette colonie ta chose, verrouillant de ton autorité le moindre de nos actes, aussi sûrement que les murs d'une prison. » Et là, il lui répond « Je t'interdis de me parler d'autorité. » Et donc, après, enfin, il s'excuse parce qu'il se rend bien compte qu'il allait vraiment trop loin, mais je trouve que c'est intéressant, finalement, de
montrer les failles aussi.
Mais oui, évidemment.
Les failles humaines.
Mais oui, failles humaines, c'est ça. Et c'est hyper intéressant parce que même là, enfin, moi, après, c'est, je peux peut-être aussi partir un peu là sur mes réflexions. C'est, ça, je pense que c'est très marqué de tout humain, enfin, ce genre de peur, là, parce que la jalousie est une peur avant tout, je pense.
Clairement. Il y a un manque de confiance en soi.
Ah oui, une peur de, oui, une peur, il y a un manque de confiance en soi, mais la peur n'est-elle de la confiance en soi ? Enfin bref, on peut partir des heures là-dessus. Mais non, et que je pense qu'encore aujourd'hui, cette expérience, c'était il y a plus de 100 ans, je pense qu'encore aujourd'hui, même dans les milieux les plus rebelles, les plus libres et les plus anarchistes qui peuvent exister, eh ben, quand on parle de jalousie...
De couple,
de relations libres.
D'enfants.
Oula, d'enfants aussi, je vous en parlerai plus loin. Eh ben, on retrouve toujours ces crispations. Et justement, je me demande si... ce genre de alors je vais pas appeler ça un symptôme parce que ça ferait maladie, mais ce genre de signaux, si c'est pas finalement les premiers signes d'un échec de nos projections d'idées, de nos idéaux.
Pas forcément un échec, mais doit nous alerter.
Ouais, c'est ça.
Là, attention. Quoi.
Parce qu'on veut toujours quand même repousser le changement à la société. Il faut qu'on change les rapports dans la société, comme si nous on n'en était pas quoi. Comme si nous, nos peurs, etc., elles n'étaient pas dans la société. Enfin, donc voilà, donc je crois que c'était hyper intéressant. Que...
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que c'est Sébastien Faure qui faisait une critique des communautés en disant que la communauté étant coupée de la société, par définition, ça ne peut pas marcher parce qu'elle est, elle ne peut que se scléroser. Alors, je ne sais pas s'il avait raison ou tort, mais en tout cas, à l'époque, je sais qu'il avait écrit des articles sur les communautés en disant « C'est une belle initiative, c'est une belle idée, mais comme la société est largement majoritaire autour de vous et que vous ne changez pas la société, bah, vous finissez par vous scléroser les uns sur les autres. »
Effectivement, et d'ailleurs, on retrouve un passage dans l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure. Dans le tome de D.A.H., il parle de l'essai. Alors, il parle quelque chose de tentative, mais il parle aussi de l'essai, des fois, de faire des communautés. Et il parle justement de cet échec-là. Et là, je m'éloigne complètement de mon
de la BD. Reviens à la BD.
Et j'espère pour vous, de l'autre côté, c'est un peu compréhensible quand même tout ce que je vous balance.
Non, ça va, je pense.
Ok, tant mieux. Et donc, tu parlais d'enfants.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu des enfants.
Eh bien, il y a... Alors, en tout cas, Fortuné, il y avait déjà d'autres enfants sur place, mais Fortuné et Adrienne ont un enfant. Et bien là aussi, je trouve que c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe, en fait, dans une communauté qui se dit anarchiste, etc. Et bien... Elle et lui ont décidé en tout cas que cet enfant sera l'enfant de la colonie. Donc il est déclaré sans parents. Je crois que c'est écrit sans parents déclarés.
Déclaré, oui.
Et donc
né pupille en fait.
Ouais, et donc c'est l'enfant de la colonie et je trouve que c'est intéressant quand même.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis c'est eux qui décident, mais la colonie elle a pas son mot à dire.
C'est pas faux. Il n'y a pas ce passage-là, en tout cas.
Non, ouais,
peut-être que ça a été sujet de discussion. Hein. En même temps, il n'y a plus personne pour leur demander.
Oui,
mais...
oui. Non. Non, mais parce que voilà, c'est pas la même démarche. C'est-à-dire deux parents qui disent à d'autres, bon, ben voilà, ce sera l'enfant de la colonie. Ou la colonie qui dit, ah ben, on est d'accord pour qu'on l'élève tous un peu.
Alors après, je pense que c'était quand même un peu dans l'esprit de la
oui,
communauté, parce que vraiment,
eux,
quand je repense à cette idée de cette nouvelle maison avec une grande pièce centrale pour les enfants,
je
pense qu'il y avait
ça.
Vraiment une idée de collectif, quoi, en fait, et que les enfants sont des individus parmi les autres, et qu'ils ne doivent pas forcément dépendre d'un seul individu adulte, en fait. Que peut-être que tous les individus adultes devraient être vigilants à ce qui leur arrive. Ça pourrait peut-être changer les choses. Et donc voilà, et on voit aussi les départs, on voit aussi... l'incapacité de Fortuné, et c'est ce que je me suis marqué, et peut-être un peu aussi de nous, en fait. C'est peut-être nous aussi, un peu, à qui ça parle. Bah, de vivre le bonheur présent, en fait. C'est Adrienne, sa compagne, qui lui met vraiment dans la gueule en lui disant, en fait, t'es toujours en train de courir après la révolution, tu veux vivre dans un monde idéal, mais qui viendra jamais, en fait. Parce que l'idéal n'existera jamais. Mais même si on veut, enfin, Je pense qu'on peut atteindre des sociétés et avancer et progresser, mais l'idéal à l'échelle de milliards d'individus n'existera jamais, ouais, je pense. Ça. Donc, et elle lui dit, voilà, enfin, tu
même
cherches.
Ou même s'il existe, il n'existera pas de notre vivant.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
C'est donc, ce qu'il faut admettre.
En fait. Et donc, ben voilà, en attendant, ben, il faut vivre, il faut jouir, il faut prendre plaisir, quoi. Donc voilà, et comment tu veux vivre aujourd'hui si tu jouis pas, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc, on voit aussi, après, les limites aussi de ce personnage, hein, qui, je pense, aussi est. Il est marqué peut-être de son temps, et en même temps je pense que ça arrive encore, c'est sûr même. Enfin, il la pousse un peu violemment en lui disant t'as pas à me dire ce que j'ai à penser. Enfin, donc il est quand même dans un rapport assez dur, on va dire, et assez bonhomme, quoi.
Ouais, sa déconstruction de toute la société et du poids, oui, qu'on met sur les hommes, d'ailleurs, elle est pas faite, quoi. Il a pas lu John Stotelberg.
Non, c'est vrai, il a pas lu John Stotelberg. Les gens qui nous écoutent, j'espère que vous comprenez, parce que là, ça part dans tous les sens. donc voilà, enfin, Barre, donc je vais essayer de terminer, quoi.
Non, moi j'avais une question par rapport à
j'ai pas fini, mais vas-y.
Non, mais par rapport à ça, ouais, c'est que tu dis il est marqué et tout, mais il me semble que lui, il est le frère de quelqu'un qui avait fait de l'anarchisme par le fait.
Ouais, je voulais vous en parler plus tard.
Mais ça peut expliquer aussi sa dureté.
Ouais, oui, effectivement. Alors,
il est peut-être un peu sur le même créneau.
Ouais, il y a son frère qui s'appelle Émile, donc Henri. Vous pouvez faire des recherches. Hein, il a été vraiment un anarchiste dans la période. Effectivement, tu disais.
La propagande par le fait.
Par le fait, pardon. Ce qui voulait dire aussi poser des bombes et faire sauter des choses et tuer des gens. Et Henri a été un de ceux-là. Il a été guillotiné. Après je vous passerai une chanson qui en parle pour ceux qui aiment bien, ça s'appelle La rue des bons enfants, parce que c'est lui qui avait posé une bombe dans le siège social des mines de je ne sais plus où, et en fait le concierge l'a déplacé au commissariat, et en fait ça a pété au commissariat.
À la rue des bons enfants.
Voilà. Et aussi le père de Fortuné et de Émile, et il y avait encore un autre enfant dont j'ai perdu le prénom, le père de ces personnes là a été un des responsables, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de la commune de Paris en fait en son temps, et il avait été condamné par contumace, il s'était exilé en Espagne,
et il a été un des fondateurs de la CNT,
c'est fort,
oui. Oui,
eh ben, ok. Ah, ok. Bah, merci pour l'info. Voilà. Donc
ça cadre un peu qui vient d'une famille, ouais, militante, et ouais, voilà.
Mais c'est peut-être de là qu'on s'attend à ce qu'il soit moins con que les autres.
Ouais,
moins violent que les autres, peut-être. Voilà. Je continue, mais il y a aussi après, effectivement, enfin, c'est aussi. Il s'interroge aussi sur le fait, enfin sur ce projet-là même de l'essai, c'est-à-dire il pose à un moment donné à d'autres personnes, il dit mais enfin on est un peu sur un îlot, quoi. Nous on est sur un îlot alors que pendant ce temps-là en fait il y a des salariés qui sont en train de crever dans la lutte, il y en a qui sont en train de qui luttent par la grève, il y en a qui crèvent, et nous on est dans notre petite communauté où finalement ça va, quoi, et ça rejoint effectivement la critique de Sébastien Faure, ouais, que tu citais avant, Fab. Donc voilà, et alors après il y a toujours des connexions quand même entre tous ces mondes-là, parce qu'en 1906 donc il y a des grèves violentes de métallos, et ça part enfin des métallos d'Ennebon aux viticulteurs du Midi. Enfin, il y a des émeutes, il y a des ateliers qui sont incendiés, il y a des blocages d'usines de 5 mois, et donc voilà, mais les compagnons de l'essai les soutiennent. Donc il y a quand même. Ils essaient quand même de se raccrocher quand même à ce qui se passe dans la réalité, j'ai envie de dire.
Et ce qui est important, c'est que eux les soutiennent, alors qu'à l'époque, les socialistes, dont un certain Jean Jaurès que tout le monde adore aujourd'hui, lui, il va aller diriger les grèves pour faire en sorte qu'elles s'arrêtent.
C'est ça. Alors,
ce qui est pas tout à fait la même chose.
Ah oui, alors que c'est pas vraiment leur idée. Hein. Leur idée, c'est quand même donc de soutien aux grévistes. Alors ils filent de la bouffe, ils évacuent les enfants. Tu parlais avant de solidarité, c'était quelque chose qui se faisait, c'était quand il y avait des grosses luttes.
Oui, ils ont fait partie des gens qui ont accueilli des enfants de grévistes.
C'est ça, ouais. On accueillait les enfants de grévistes pour que les gens puissent continuer de lutter, oui, sans avoir à se soucier que les enfants puissent manger. Et ouais, la solidarité, putain, on l'a pas créée en 2000, quoi, avec nos réseaux sociaux.
Ah,
c'est dingue, complètement dingue.
Y a aussi... Ils le faisaient sans réseaux sociaux, d'ailleurs.
C'est ça.
C'est-à-dire avec des lettres et tout.
C'est
un truc
dingue, complètement dingue. Incroyable. ils planquent, je sais pas comment on pouvait appeler ça, mais des militants, ils disent ça va de la CGT à des cocos, à des communistes, pardon, à des anarchistes. Voilà, il y en a qui sont en exil, etc. Donc voilà, ils éditent des tracts pacifistes. Ils font
alors
des.
Alors que la guerre gronde.
Et oui.
Déjà à l'époque.
C'est tout ça.
Avant la première guerre.
C'est tout ça.
Mondiale.
Et il y a aussi, enfin, ils font des assemblées avec des gens où ils appellent à l'insurrection générale, quoi. Dans ce climat, etc. Donc vous imaginez bien que, bon. Bah avec le journal qu'ils avaient fait et tout ça, bah ça a créé un peu des soucis. Il a été arrêté et tout ça et Fortuné a été arrêté. Son collègue qui l'aidait à l'édition a pu s'échapper en traversant la frontière. Donc voilà. Donc je vais pas vous révéler tout, ce que je vous ai déjà donné beaucoup, mais la fin vous la découvrirez par vous-même. En tout cas, reste que déjà, enfin, sur le travail du créateur, enfin, il y a des pages où vraiment on croirait de la peinture, enfin, de l'impressionnisme. Il y a quelque chose de très très beau dans son dessin. C'est vraiment très joli. Et puis voilà, enfin, à la fin, comme je vous ai dit, il y a deux pages de vraiment sur l'histoire, vraiment d'archives, effectivement, avec des photos, avec une recontextualisation des choses.
Et on mettra le lien de la BNF lire le journal sur le blog.
Bah carrément, on peut faire ça parce que vraiment, enfin, moi, je suis sorti de cette BD en me disant. On a noté tous les noms des gens que j'ai rencontrés. Je me suis dit, tiens, bah, je veux bien savoir un peu plus ce que c'est. Et que, encore une fois, toutes ces utopies qu'on a pu prendre pour des utopies au départ ont existé. Avec les résultats qu'elles ont eus.
Et on peut apprendre des erreurs.
Mais c'est ça. C'est, en tout cas, c'est une utopie, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas existé. On sait que l'anarchie, c'est plus une utopie parce que ça a existé, ça existe dans des modes de fonctionnement. Et qu'il est bon de se rappeler parfois qu'il y a autre chose que le socialisme, que la démocratie, la social-démocratie et tout ça, et qu'on peut largement réinventer le monde.
Ouais.
C'est voilà.
Beau. C'est les éditions et quand même.
Oui, pardon.
C'est belle fin, mais.
Long, désolé. C'est donc aux éditions d'Argo dans la collection Long Courrier, et c'est donc l'essai de Nicolas Debon. Voilà.
Ça donne très envie, hein, je te
le dis. Et ben, tant mieux. Et ben, on y va pour de la musique.
Des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes.
À vous laisser les mains vite, y porter une marmite qui était à renversement et la retourne prudemment.
Qu'on ramassait sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait qui en avait. L'étonnement est profond, on peut en voir jusqu'au plafond.
Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais.
Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie.
Les sociales n'ont rien fait pour abréger les forfaits de la famille capitaliste, mais heureusement va l'anarchiste. Plus de misère salariée, mise à prix sur le marché. Plus de patrons et plus de patrices, c'est tué pour eux, c'est fini.
C'en est passé des réformes, des rébellions dans la norme, pour régler radicalement le problème social en suspens.
Dans la rue des bons enfants, vient d'apprendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place, car le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, vient d'apprendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place, car le vieux monde est à la casse.
Eh ouais, le vieux monde est à la casse, mais la causerie est ici. Alors, on est toujours sur Radio Canu et on vient de s'écouter donc.
Quelqu'un qui téléphone, mais on peut pas décrocher, c'est désolé. Pas
et on vient t'écouter donc La rue des bons enfants de René Binamé. Et Fab, tu voulais nous parler d'un truc.
Non, d'abord, tu voulais dire que c'était bien approché.
C'est vrai. Oui, je voulais rajouter quand même que c'est intéressant, moi, je trouve, de pouvoir approcher des événements historiques, etc. Bah, des fois sous d'autres formes que des pavés de 400 pages. Alors, c'est peut-être moi qui est un peu
non, mais
tout
c'est...
ça, mais je trouve que c'est intéressant, enfin, que ça interdit pas l'approche des choses à tout le monde sous des supports différents. C'est surtout ça.
Il en faut pour tous les goûts.
C'est ça. Merci. Voilà, Fab, tu voulais nous parler d'un truc, tu voulais nous parler de Curton.
Ouais, là, c'était vraiment la semaine de merde. Hein. Je sais pas si vous avez vu,
elle s'accumule, j'ai l'impression.
Ouh là là. Alors, ça a commencé avec le cardinal Barbarin. qui du coup sera pas inquiété par la justice, même s'il a planqué des faits de pédophilie dans son diocèse. Voilà.
Et la prescription.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le juge, il s'appuie sur la prescription, tout ça, tout ça. Alors, bon, le cardinal, il dit, bah, c'est normal, parce que bon, c'est vieux, tout ça. Enfin, vous voyez. Donc, c'est un peu horrible, parce que, bah, encore une fois, on voit que l'église, bah, c'est ce que tu disais dans, quand t'avais présenté le film, j'ai perdu.
Spotlight.
Ouais, c'était la phrase, c'était.
Que l'église compte en siècles, en fait. Ouais. Qu'elle a pas l'espace-temps comme nous pouvons l'avoir.
Nous, on compte en années, quoi.
C'est ça.
Et que du coup, en fait, bah, on voit bien que l'église, elle se sert de tout ça en permanence, elle se sert du temps. Et que là, il savait pertinemment que cette histoire bah, serait enterrée, et que c'était un peu le but, et qu'ils ont bien fait traîner exprès. Que voilà, enfin, je le dis. Hein, après, je serais peut-être traité, enfin, emmené en, pour diffamation. Mais j'assume mes propos parce que je trouve que ça pue la magouille. Ça pue l'envie de laisser des gens qui ont été violés par un prêtre quand ils étaient enfants ne pas avoir justice. Quoi qu'on pense de la justice bourgeoise, ce sera toujours mieux que de ne rien avoir.
Et si les victimes demandent ça, ben les victimes elles font ce qu'elles veulent.
C'est très clair. Et je trouve que parce qu'il y a eu des réactions de gens qui disaient oui, mais pourquoi maintenant, c'est un peu facile. Hein. Voilà. Et puis ben, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une des victimes qui justement veut retirer sa plainte contre le père Prénat, je crois.
Prénat.
Ouais. Qui parce qu'il dit bah du coup comme Barbarin était, moi je vais retirer symboliquement ma plainte et du coup bah. Je comprends son geste parce que c'est un geste de colère, de ras-le-bol, mais bah, d'un autre côté, ça démontre que bah, ils vont être bien tranquilles, quoi. Et ça, c'est assez malsain.
Bah là où je m'interroge un peu, c'est je me demande si finalement ces gens sont déçus de la non-réaction de l'Église, c'est qu'elles donc elles attendaient.
Peut-être.
Et c'est peut-être compréhensible.
Et c'est légitime parce qu'ils sont,
mais
sont
oui,
croyants.
Elles sont croyantes et elles attendaient à ce qu'elles aient un soutien, sauf qu'en fait non.
Mais il n'y en a pas, quoi. On le voit clairement et voilà. Et je rappelle que le pape a conforté Barbarin dans sa position de cardinal de Gaulle, donc voilà. La deuxième chose, bah, c'était à Rouen. Hein, vous savez qu'il y a un prêtre qui a été égorgé. Alors c'est horrible et je ne vais pas faire d'humour là-dessus. Mais
hors antenne, oui, mais pas à l'antenne.
Ouais, voilà. Mais en dehors de ça, non. Ce qui est terrible, c'est que bah, ça a permis en fait à l'archevêque de Rouen de nous faire une grande sortie contre la laïcité. C'est-à-dire que c'est un peu l'habitude des églises et de toutes les sectes. Hein, en fait, hein, on va dire clairement, c'est de se servir d'un événement dramatique pour y caser un petit peu des trucs. Voilà. Alors il est venu nous expliquer que tout ça c'était le fruit de la laïcité et que dans les écoles les gens qui croyaient ils étaient ostracisés, c'était horrible, vous voyez, ils peuvent pas dire qu'ils croient et tout. Pour ça ils sont mal dans leur peau et c'est pour ça qu'ils deviennent peut-être terroristes.
Ah, c'est donc à cause de la laïcité.
C'est voilà, c'est ça, c'est à cause de la laïcité. Enfin bref, des trucs un peu débiles et puis il est allé très très loin parce que il a même prôné en fait lui un retour du religieux dans l'école et un retour du religieux dans la vie civile. Donc en gros, bah lui il rêve du concordat hein, pour le faire simplement. Les amis d'Alsace-Moselle que vous connaissez bien, hein, donc voilà, et puis de Mayotte aussi, voilà, donc lui il rêve en fait de, bah, d'avoir de nouveau une parole qui compte.
C'est ça.
C'est-à-dire, voilà.
Mais, et puis il faudrait cesser de croire en fait que les curés, quand ils parlent dans le vide en fait. Ils ont des positions politiques et ils avancent leur pion.
Ah, clairement, ouais.
Et en
alors
fait,
lui, il a fait.
Ah, bah, et là, en ce moment, les religieux avancent bien leur pion.
Et oui, parce que dans le même temps, c'est la concorde nationale. Tout va bien, tout est merveilleux. C'est-à-dire que, ben, notre président préféré de tous les Français, il paraît qu'il faut dire ça maintenant. Parce que sinon, t'es viré de l'antenne.
Ah, ouais, c'est comme Erdogan, quoi.
Bah, c'est l'état d'urgence, hein.
Ah, ouais, c'est vrai. Oh. Ah, oui.
Je déconne pas les enfants. Donc moi j'ai très 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 peur. Et du coup voilà, donc le président comment il s'appelle déjà?
Ah oui, François Hollande,
c'est ça. Non, je déconne. Et ben il a réuni toutes les gens qui constituaient la nation pour discuter. Alors il y avait des catholiques, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des bouddhistes aussi et des protestants. Et c'est tout.
Et il manquait qui?
Il est pas daté.
Ah oui, mais attends, là c'était l'invitation des personnages de science-fiction.
Bah ouais, c'est ça, c'était la.
Ah mais ils pensent que c'est la réalité.
C'est la réunion des sectes en fait. Mais voilà. Non mais alors c'est terrible parce que ça a été présenté par tous les médias, par tout le monde, et y compris par le président de la République, comme étant la représentation nationale. Super. Bah, sûr, ça va. Hein.
Bah, surtout dans la spécificité française où quand même je pense que il y a. Enfin, on est un peu un pays à part dans le nombre de non-croyants. de personnes athées qui ne croient pas en Dieu.
Après, on est juste après le Japon. C'est-à-dire qu'en France, il y a plus de 40% de personnes qui ne croient pas.
C'est ça. Voilà. Et on met la religion au premier plan. Ouais, d'accord, ouais, ok. Voilà. C'est cool.
Et alors, donc, lui, il a fait ça, donc, ce qui était déjà assez énorme. Derrière, il y a son premier ministre, là, le petit capot, là, Manuel Valls,
oui.
qui de seul coup s'est dit oh, tiens, si on refaisait un concordat avec l'islam, ce serait cool. Non, mais voilà, vous voyez, tout le truc, vas-y, roule. Après, c'est Cazeneuve, le capot deuxième en chef, là, qui est venu avec la même idée à la con, là, en disant, bah, tiens, on n'a qu'à faire un concordat, machin. Mais... Et c'est, au début, c'est passé un peu comme une lettre à la poste, jusqu'à ce que quand même, et heureusement, et je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais je vais les saluer pour une fois, la Libre Pensée et la Ligue des Droits de l'Homme ont rappelé un tout petit peu qu'en France, ça ne marchait pas comme ça, et qu'il y avait une loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, et ça a obligé, en fait, le président préféré des Français que tout le monde aime, à dire, non, en fait, vous déconnez, les gars, là. Vous voyez, c'est le truc. Mais c'est terrible, parce que c'est passé dans les médias, mais c'était hallucinant, ça passait, il n'y avait personne qui réagissait, qu'on était en train juste de dire que, ben, en fait... on allait juste enlever la laïcité parce qu'elle nous emmerdait un peu, quoi. Donc voilà. C'est quand même quelque chose de dingue. Et je vais en profiter pour ajouter ici un truc. C'est que la laïcité, c'est pas une idée de loi, contrairement à ce que les gens croient. C'est une position philosophique au départ. Ça n'est rien. Ça a été légiféré en France. Mais c'est au départ une position philosophique, une position politique et philosophique. Ça n'a rien à voir avec une loi quelconque. C'est comment vous voulez que les groupes d'individus, c'est pas forcément une nation, se gèrent. Voilà, il y a des gens, des syndicats, par exemple, qui disent chez nous, c'est la laïcité. Donc là, le religieux, il reste en dehors du syndicat. Voilà, c'est écrit dans leur statut. Et ça n'a rien à voir avec la loi de 1905. C'est comment on se gère. C'est la philosophie dans laquelle on se gère. Et je vais rappeler que la laïcité, il n'y a pas besoin de mots derrière. Vous voyez, c'est une laïcité ouverte, une laïcité progressive, une laïcité à la carte, la laïcité à la plage, la laïcité... Non, c'est la laïcité. C'est une idée, voilà, qui est claire, qui est philosophiquement définie et qui a pas besoin d'avoir des mots derrière, parce que dès qu'on met un mot derrière, parce qu'en fait, on l'aime pas bien. Mmh. C'est pour ça que Marine Le Pen, par exemple, parle de nouvelle laïcité républicaine ouverte. Ah ça bah fait beaucoup oui, de mots derrière.
Ah bah c'est... tu peux compter sur le Front National pour.
Mais oui. Mais sauf qu'on comprend bien qu'en réalité, ils ne défendent pas l'idée de séparation de l'Église et de l'État, en l'occurrence, ou de séparation de l'Église, enfin, ce qu'on appelle l'intemporel du temporel. Ils défendent simplement un truc qui permettrait à certaines églises d'être mieux dotées loties que d'autres.
Bah, c'est sûr.
Voilà. Donc je voulais rappeler ça.
Ouais.
Voilà. Bah voilà, ouais. C'était la semaine de merde.
Ouais. T'as raison, et je pense que c'est pas la dernière.
Malheureusement.
Eh ben, on s'écoute de la zik ?
Ouais.
Ah non, on s'écoute pas de la zik. Alors, je crois que. Ah, t'as encore les marques du coussin.
J'écoutais religieusement, en fait.
Oh, c'est beau. Celle-là, elle est belle.
Comment c'est taquin, ça ?
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous allons mettre un peu de musique.
Ben oui.
C'est parti ? Non ? Toujours pas ? Si, ça y est.
Allez, c'est parti. We'll be right back.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, avec la causerie de 22 à 23, et même des fois qu'on dépasse. Bon, et c'est le cas ce soir.
C'était quoi qu'on écoutait ?
Mais calme-toi, enfin ! Enfin ! Eh bien, on vient de s'écouter. Juniper, je sais pas le titre, comment on peut le dire, parce que je suis un peu nul en anglais. Et les artistes, en tout cas, enfin l'artiste, c'est Phil Astin, et c'est un remix, de la chanson Illabamba.
Okay.
Voilà. Et puis, on va terminer avec quelques brèves, très courtes, et puis on terminera, voilà, en musique.
Et pour ceux qui savent pas où partir du 8 au 19 août, vous pouvez partir à Bure. Alors, où c'est Bure? C'est pas dans les Ardennes, je crois. Non, mais c'est dans le nord. Enfin, c'est au nord, par rapport à Lyon. Et parce qu'en fait, le gars vient de se rendre compte qu'il avait oublié sa carte et qu'il ne sait pas du tout où est Bure. Mais enfin, Bure, c'est par là-bas.
Ouais. Et c'est dans la Meuse, je crois.
Ouais, dans la Meuse, c'est ça.
Dans la Meuse, 57 alors.
Et du coup, là-bas, ils veulent enfouir des déchets radioactifs, vous savez, dans le sous-sol, en disant on ferme la porte et après, pendant 150 000 ans, on espère que personne ne l'ouvre.
Ouais. Bah, peut-être qu'à ce moment-là, les religions seront utiles. Priez, mes très chers frères.
Donc il y a un grand festoche contre la construction de tout ça qui se tient donc du 8 au 19 et en particulier du 13 au 15 août, donc ce week-end qui arrive là. Il y a sur place un festival vraiment qui a été monté avec des ateliers divers et variés. Ça va de la communication non violente à la réparation de vélos en passant par comment on fait pour empêcher un chantier d'être construit. Vous voyez, c'est un peu tout et n'importe quoi entre guillemets. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire c'est le partage des connaissances parce que le n'importe quoi des fois ça fait des grandes choses.
C'est pas ça.
C'est pas péjoratif dans ma bouche. Voilà, donc c'est donc à Bure entre le 8 et le 19 août.
C'est
et
ça.
Puis bien sûr, si vous pouvez aller sur la ZAD, ils ont besoin d'un coup de main, donc n'hésitez pas.
C'est ça. Mmh. Et puis les autres infos. Alors l'autre info, c'est le week-end prochain aussi. C'est lever les yeux au ciel.
Alors à partir de maintenant.
Au week-end prochain. Mmh. Lever les yeux au ciel, non pas pour y voir une quelconque divinité religieuse, parce que vous savez bien que tout ça n'existe pas, mais pour voir des poussières qui rentrent dans l'atmosphère.
Et qu'on appelle des étoiles filantes.
C'est ça. Et que c'est un joli spectacle.
Ouais.
Il est gratuit, son et lumière, tout ça, c'est génial. Donc allez-y. Alors, je me tais, pardon.
Ouais. C'est pas...
Non, j'allais dire, vous pouvez aussi prendre des drogues et regarder le ciel.
Oui, vous pouvez aussi. Vous avez le droit aussi. Faites ce que vous voulez, c'est votre corps, c'est après
ça.
Tout.
Pardon.
Non, par contre, un petit conseil pour les gens qui habiteraient Lyon, c'est que quand on est dans la ville, comme Georges le souligne, c'est le fameux halo de lumière des villes. Donc, prenez même les transports en commun si vous n'avez pas les moyens de prendre une voiture ou prendre un vélo, voilà. Et éloignez-vous. Il y a des lieux où il suffit de partir un tout petit peu le long de la Saône, par exemple, ou le long du Rhône, remonter, sortir de la ville pour mieux voir le ciel et être plus tranquille.
Ouais.
Voilà.
Et ça devrait être très joli. Mmh. Voilà. Et puis, on peut vous annoncer aussi que bientôt, c'est les vacances de la causerie.
Oui.
Bah oui, parce que elle est un peu fatiguée quand même.
Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend pas du tout qu'on est fatigué, je veux dire.
Et que, elle va prendre ses petits congés, parce que quand même, il lui faut ça au moins.
Ouais.
Donc on sera pas là, la causerie ne sera pas là du 21. Le 21 et le 28 août.
Voilà, on reprendra le 4 septembre.
C'est ça. Mais la semaine prochaine,
il y a une causerie.
Soyez au rendez-vous parce qu'il y aura une émission.
Ouais.
Un petit peu spécial. Même moi, j'en dis pas plus. Parce que je serai pas là.
Voilà. Moi, je peux en dire un peu plus si
oui.
Vous voulez. La semaine prochaine, je le dis parce que c'est pas une surprise énorme, je serai tout seul.
Ouais! Super nouvelle!
Et je vais vous balader en cinémascope.
Oh, comme c'est beau.
Voilà. Ce sera le thème de l'émission prochaine.
Ok.
Voilà.
Et
ça fait bien un teasing et tout.
Ah, carrément. Hein.
Voilà.
Ouais, c'est génial. Voilà.
Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas parce que t'es en vacances de la causerie pendant 3 semaines.
Je crois que j'ai commencé à prendre mes vacances.
C'est clair.
Bon, non. Allez, on est sérieux jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a fini pour les brèves, s'il vous plaît?
Oui.
Très bien.
On a fini.
Ah oui, on a même fini.
On avait fini, en fait.
On a fini, ouais. Ah ouais, il est 23h07 en plus.
C'est un peu ça le truc.
Et ben alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des bisous, on voilà. souhaite la bonne nuit.
Et puis tu me laisses dire ce que, avec quoi on se quitte.
Mais
aussi.
Bien évidemment, voilà. Moi je voulais d'abord faire plein de bisous et tout ça.
Et tu fais ça à chaque fois, alors qu'après t'en refais derrière.
J'aime bien les bisous.
Il aime ça. Les bisous.
J'adore ça.
Donc d'ailleurs, si vous voulez venir faire des bisous à Jean-Yves à partir du 4 septembre, c'est à partir de 21h30 au studio.
Ouais, enfin, on en rediscute. Hein. On en rediscute.
Ah là, d'un coup, t'aimes moins les bisous.
Bah, mailez-moi avant qu'on se regarde.
Sur lacausericanu@gmail.com.
Ouais, mais qu'est-ce qui concerne les bisous mettez-le dans le post.
Bisous Jean-Yves.
Oui, enfin bref, qu'on fasse transmettre tout ça.
Donc là, on va se quitter avec un titre qui a une vingtaine d'années bientôt. Oui, Sarah, je ne dis pas, il est de 98. Oh là là. C'est les Proper Heads avec History Repeating. Repeating, je ne sais pas comment on le dit en anglais. Et c'est avec Shirley Bassey. Voilà, yes. Qui est Shirley Bassey, pour ceux qui connaissent, qui a chanté plein de génériques de James Bond.
Voilà. Mmh, oui.
Et oui, Goldfinger, tout ça.
Ah oui, voilà. Je vois.
Eh ouais, tu vois. C'est n'importe quoi cette fin d'émission. Bon. Et à la semaine prochaine.
Oui, pour toi. Pour moi. Bonne émission la semaine prochaine. Et puis bah, sinon, bonnes vacances aux autres.
Et bah, bonnes vacances à vous en tout cas.
Merci.
Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et bon courage à ceux qui ne sont pas en vacances. Oui. Et bon courage à ceux qui sont obligés de bosser. Et bon courage. Je sais plus quoi dire.
Bon, bah, on va passer à la musique.
S'arrêter.
Allez, salut. Allez,
bisous.
Bonne
ciao.
Semaine.
The word is about. There's something evolving. Whatever may come. The world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating.
quand les sacs à main.
Tu parles trop et j'ai envie de te braquer. Tu connais quoi de la